Vous êtes bon, merci beaucoup. Oui, quelle joie de pouvoir revoir un certain nombre de visages que j'ai rencontrés en effet à la Bécède, hein. Le plus bel endroit au monde, comme nous l'avons chanté la dernière fois ensemble. Et en ce qui me concerne, moi, ma famille, les enfants, on a continué de chanter notre chant pendant les semaines qui ont suivi. Et puisqu'on s'est séparés et les enfants avaient un atelier savon qu'il ne fallait surtout pas utiliser avant la rentrée, et bien voilà, on a récemment ressenti les bonnes senteurs qui nous ont rappelé ce temps à la Bécède. Un grand merci aux amis de la Bécède qui nous font donc la joie ce matin de se joindre à nous. Je suis d'accord avec l'idée que ce n'est pas seulement une parenthèse, mais un carrefour où des rencontres sont possibles. J'ai eu la joie de rencontrer vraiment beaucoup de personnes. J'ai eu la joie de rencontrer des collègues pasteurs en toute simplicité, en toute amitié, d'apprendre à partager nos passions, nos cœurs, nos joies. J'ai eu la joie de découvrir aussi cette terre. Ça tourne quand même beaucoup, hein, vers la Lozère. Entre deux causses, il faut passer par là. Et puis, je ne vais pas leur faire la publicité, mais il y a des spots qui valent la peine d'être découverts. Ça mousse, ça roule. C'est excellent aussi, hein, comme lieu de ressourcement. Donc, c'était vraiment, vraiment super. Donc, je me réjouis de partager avec vous un peu plus de temps à la sortie du culte avec le repas. Je voudrais aussi partager une triste nouvelle avant de partager le message que j'ai préparé dans le cadre de notre série sur les Actes des Apôtres. Vous avez constaté pour certains que je n'étais pas là pour vous accueillir. Nous étions un certain nombre de membres de l'église, de la maison des parents, à nous retrouver pour entourer la famille de José Harris qui nous a quittés. Ce vendredi 1er novembre à 8h30 à l'unité des soins palliatifs donc, du CHU Carimo. Nous étions là pour l'entourer une dernière fois et pour témoigner de notre amour, de notre soutien à la famille, à tous les proches éprouvés par ce décès dans sa 62e année. C'est révoltant, la mort. C'est douloureux. Cela reste une ennemie. La Bible dit même que c'est la dernière ennemie que le Christ mettra totalement KO sous ses pieds. Pour autant, ça fait partie de notre finitude. Ça nous bouscule et vous savez combien, en Église ou individuellement, nous avons traversé déjà un certain nombre de deuils. Et face à tout ça, nous voulons redire à celles et ceux qui connaissent cette sombre vallée de la mort, et plus être plus précis de l'ombre de la mort, l'espérance qui est en Jésus-Christ qu'un jour, la mort sera totalement vaincue. Et donc, c'est avec ce regard de l'espérance en la résurrection que je voudrais poursuivre ce culte. Et ce matin, à la suite de notre frère André, qui la semaine dernière nous a commenté le récit de la conversion de Corneille, ou plus précisément de la rencontre de l'apôtre Pierre et de Corneille, qui a débouché sur la conversion de Corneille et ceux de sa maison, marquant donc une étape importante, aussi bien dans l'avancée de l'annonce de l'Évangile que dans l'élargissement de l'Église naissante, donc au tout début de notre ère. Cette Église bousculée par le Seigneur lui-même pour aller vers, et non pas simplement rester et dire « venez vers nous », mais « allez vers ». C'est la respiration, en quelque sorte, de l'Église. Aller vers. Oser dépasser ses frontières. Oser dépasser l'entre-soi. Oser risquer la rencontre. C'était difficile, et cela nous a été rappelé. Il a fallu que le Seigneur use de tous les moyens de persuasion, dont une vision spirituelle accordée à l'apôtre Pierre, et en même temps aussi à Corneille, pour que cette rencontre providentielle ait lieu. Et qu'ainsi, au chapitre 11 qui nous a aussi été lu par André, Pierre pouvait dire puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru. Quand le Seigneur nous pousse vers les autres, nous découvrons qu'il nous a précédés, qu'il leur a donné aussi un cœur qu'il aime, qu'il leur a donné aussi la repentance, qu'il leur a donné aussi le salut. Et nous découvrons en fait que le Seigneur voulait nous montrer qu'il est en train d'agrandir sa famille. Un Dieu de l'inclusion, inconditionnel, sans discrimination. Je crains que ce mot « inclusion » qui est beaucoup utilisé fasse à un tel point peur à l'Église, suspect a priori, qu'elle se renferme, qu'elle se barricade. Je le regrette parce que ce faisant, nous laissons que ce mot soit récupéré par d'autres qui se disent chantres de l'inclusion inconditionnelle et il ne vient pas à l'esprit de ceux qui nous écoutent que Église est un beau nom qui va avec cette notion d'inclusion. Il suffit de nous regarder ce matin tel que nous sommes pour voir à quel point cela est vrai. Inclusion des hommes et des femmes de toutes les générations, inclusion des hommes et des femmes de tous les sexes, de toute race, même si nous n'avons plus la notion de race, mais pour reprendre un vieux langage biblique, de toutes origines, d'une diversité impressionnante de classe sociale, de sensibilité, et en fait, c'est le miracle de l'Église. Que des hommes et des femmes qui n'auraient pas pu se rencontrer, que des hommes et des femmes qui ne se seraient peut-être pas choisis, se rencontrent, se parlent, se découvrent aimés inconditionnellement, aiment Jésus, deviennent la famille de Dieu, ensemble. N'est-ce pas beau, mes frères? C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, ce matin, nous allons poursuivre notre lecture du chapitre 11. Vous m'excuserez parce que cette fois-ci, dans une semaine extrêmement chargée, je ne me suis pas embarrassé de vous faire un PowerPoint. Donc vous allez sortir vos Bibles, et si vous les sortez sur vos téléphones, assurez-vous de les mettre, s'il vous plaît, en mute, en muet. Ah, ce bruit-là, ça fait du bien. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'avec les PowerPoint, on n'entend pas ce bruit des personnes qui cherchent leur Bible. Ah, c'est pas mal ça, ça me donne des idées. Hein. On peut peut-être continuer comme ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu un bruit des sacs, des pages. Ça c'est intéressant ça. On redécouvre quelque chose là. Je vous invite à écouter la parole du Seigneur. Actes chapitre 11, les versets 19 à 30. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs. D'autres versions ont aux juifs d'origine grecque, de culture grecque ou d'origine grecque. Les manuscrits divergent un peu. Mais en tout cas, ils annoncent à un autre groupe à qui on ne voulait pas annoncer ou à qui on n'avait pas annoncé. Ils leur annoncent le Seigneur Jésus-Christ. Or, verset 21, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertir au Seigneur. Bientôt, l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul, c'est-à-dire Paul, l'apôtre, Quand il l'eut trouvé, il amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit, sous l'inspiration de l'Esprit, qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. S'il vous plaît, dessinez-moi une église. Si on voudrait respecter la formule du Petit Prince, on mélangerait le singulier et le pluriel. S'il te plaît, dessinez-moi. Non pas un mouton, mais une église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit « j'y comprends rien » ? S'il te plaît, décryptez-moi l'église. L'un des projets du livre des Actes des Apôtres, c'est de nous dépeindre l'Église depuis son origine, sa fondation, sa croissance, afin que celles et ceux qui suivent de génération en génération se rendent compte de ce miracle que nous appelons l'Église. Et de la façon dont l'Église, née de l'impulsion de l'Esprit de Dieu, est une entité vivante, un corps vivant dans ce monde. Je n'imagine même pas ce monde sans elle. S'il te plaît, dessinez-moi une église. J'aimerais tenter de la dessiner en esquissant trois points non exhaustifs, mais trois points choisis en me plaçant simplement à l'écoute de ce texte que nous venons de lire ensemble. Et si vous ne devriez retenir que ces trois points, alors je n'aurais pas peiné en vain à écrire. Une église, ce sont des hommes et des femmes que quand on voit vivre, on voit Jésus. C'est audacieux ça. C'est audacieux. Vous entendez souvent quand vous prenez le métro, hein, ou certains trains, ou le TGV, hein, quand ça s'arrête, hein. Pour votre sécurité, mesdames et messieurs, faites attention à l'ouverture des portes, à la marche qui sépare, hein, le train du quai. En anglais, on dit « mind the gap ». Quand vous êtes à Londres, vous entendez souvent quand le métro s'arrête « mind the gap ». Attention à l'écart. Donc lorsque je dis une église, c'est des hommes, des femmes, que quand on voit vivre, on voit Jésus et quelqu'un doit dire « mind the gap, pasteur ». Attention à l'écart, pasteur, parce que parfois, soyons honnêtes, there is a gap. Oui, parfois il y a un écart. On va le voir. La deuxième chose que je vais essayer de montrer également, dessine. S'il te plaît, dessine-moi une église. C'est que ces hommes et ces femmes qui montrent Jésus comme des panneaux indicateurs ne démissionnent pas du monde. Ne démissionnent jamais du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des missionnaires. pardon, hein, pas des missionnaires, des missionnaires. Des fois qu'il faut bien régler l'appareil, hein, sinon on m'entend pas bien. C'est le deuxième point. Troisième point, que me semble-t-il le récit pointe, s'il te plaît, dessine-moi une église. C'est que ces hommes, ces femmes qui pointent Jésus et qui sont des missionnaires ne sont jamais avares. Ils sont généreux. Et si je veux faire rimer missionnaire et générosité, je vais faire un pas de côté, je veux dire ils sont solidaires. Donc trois points que je voudrais qu'on retienne ce matin. S'il te plaît, dessine-moi une église. En sortant, tu dis, une église, elle me parle de Jésus-Christ. Une église me fait aimer et voir la mission de Jésus-Christ. Et une église me dit que ma foi me pousse à ne pas démissionner du monde, mais à être solidaire. Amen. On peut passer à la suite maintenant du culte. J'ai fini. Pourquoi je dis que c'est le lieu où des hommes et des femmes montrent Jésus? Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez remarqué, ou peut-être n'avez-vous pas remarqué, ce commentaire de Luc qui nous dit « C'est à Antioche que pour la première fois » Verset 26, pour ceux qui me suivent dans le texte. Acte 11, verset 26. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés, dites-le avec moi s'il vous plaît, chrétiens. On peut se demander, mais les autres fois, comment on les appelait? Si vous enlevez le « e », ça donne quelque chose de pas très joli. Avec une grosse faute d'orthographe en plus. Non, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'étaient pas des crétins. Ils ont toujours été chrétiens à partir du moment où ils ont choisi de répondre à l'appel de Jésus. Seulement, ce n'est pas eux qui se désignaient comme chrétiens. Eux, ils se sont toujours désignés comme disciples de Jésus. Eux, ils se sont désignés comme frères, sœurs de Jésus. Eux, ils s'appelaient entre eux, quand on lit les lettres suivantes, bien-aimés de Dieu, bien-aimés de Jésus. Ils s'appelaient même saints. Il faut que je le dise pour nous protestants évangéliques, parce que dès qu'on met saint devant un prénom, c'est suspect. Non, ils s'appelaient saints, au sens peuple consacré de Dieu. Ce ne sont donc pas eux qui ont dit, nous sommes chrétiens. Nous, c'est les chrétiens, ce n'est pas eux qui ont dit ça. Ce n'est pas eux qui ont choisi de s'appeler comme ça. Et alors, qui les a appelés comme ça? Luc ne nous dit pas. Mais cette appellation chrétien comme un nom propre apparaît deux autres fois dans la Bible. Et toujours dans le Nouveau Testament. Et ça va nous donner quelques indices. La deuxième fois où apparaît cette appellation, c'est toujours dans le livre des Actes, au chapitre 26, verset 28. L'apôtre Paul, on est vers la fin du livre des Actes, deux chapitres avant que ça se termine en queue de poisson. L'apôtre Paul a été accusé et il comparaît devant des autorités. Et là, il a l'occasion de comparaître devant le gouverneur Festus et le roi Agrippa. Et il fait entendre une plaidoirie pour défendre son innocence et sa cause. Et il va interpeller Agrippa, Actes chapitre 26, verset 28. Il dit, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» Il ne laisse pas le roi répondre parce qu'il veut que le roi comprenne que sa question, ce n'était pas une question qui appelait un non. Il lui dit, « Je sais que tu y crois. » En fait, Paul avait déjà eu des discussions sans doute avec le roi, donc il connaissait sa position, mais il n'osait pas assumer. Paul dit, « Roi Agrippa, je suis ici parce que je crois à la parole des prophètes. » Et il lui dit, « Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes ?» Le roi n'a pas encore ouvert la bouche. Il dit, je sais que tu y crois. Et Agrippa, un peu confus, vous imaginez, il voulait que ça reste secret. Il dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il a à perdre à devenir chrétien? Qu'est-ce que ça fait d'être, dans ce contexte-là, appelé chrétien? Identifié comme chrétien. Visiblement, le roi Agrippa ne souhaite pas, en tout cas du moins publiquement, être identifié à ces chrétiens-là. Parce qu'ils sont perçus comme une minorité subversive et dangereuse. Comme des personnes qui n'ont pas véritablement bien compris le judaïsme et qui seraient des dissidents du judaïsme et de la loi de Moïse. Et le roi Agrippa, en politique, il veut bien concéder qu'il croit au prophète. Mais de là à suggérer qu'il est chrétien, surtout pas. Non. Tu vas bientôt faire de moi un chrétien. La deuxième fois qu'on trouve cette appellation, c'est un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans une lettre que l'apôtre Pierre, là on avait l'apôtre Paul, hein, j'ai envie de dire que ce sont les deux colonnes hein, du Nouveau Testament. Donc c'est intéressant que les deux se soient un peu appropriés cette question d'identité. Alors l'apôtre Pierre, il va écrire plusieurs lettres, dont sa première lettre, il écrit et il adresse aux chrétiens justement qui sont dispersés dans tout l'empire de Rome et qui sont une minorité et pour certains, ils sont tellement moqués, méprisés, qu'ils commencent à se dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'identité? C'est nul d'être chrétien, c'est vraiment nul. Regardez comment les autres s'amusent dans les jeux romains. Regardez comment les autres semblent libres. Regardez comment les autres ont une place dans la société. On ne les discrimine pas autant que nous. Mais à quoi bon finalement? Et puis ils voient que certains meurent persécutés. On en reparlera encore dimanche prochain, dimanche de l'église persécutée. Et puis certains ont peur d'être associés à cette identité. Et on sait que d'autres ont déjà commencé à rejeter cette identité, à dire « Ah non, non, moi je ne suis plus chrétien. » Ce qu'on a appelé les lapsis. Hein, vous voyez, ça vient du mot lapsus hein, au singulier. Le lapsus, une erreur. Non, je me suis trompé. C'était un lapsus, ma conversion. Je ne suis plus chrétien. Parce que je n'ai pas signé pour ça. Hein. Pas pour qu'on me méprise, pour qu'on me discrimine, pour qu'on me moque. C'est nul d'être chrétien. Je pense à mes enfants au lycée. Je pense à certains de mes frères au travail, moqués. Hein. Sainte Thérèse arrive. Ah, voilà, c'est un Nicodème qui vient. Une manière de dire, ah, il va encore nous amener ses bondieuseries. C'est comme quelques petites piques comme ça. Et à la fin, ça peut devenir lourd. Et on peut se dire, mais est-ce que je veux vraiment être identifié dans mon entreprise, dans mon quartier, dans mon voisinage comme chrétien? Est-ce que j'ose? Est-ce que je dois même le dire? Est-ce que je dois même le montrer? Alors, écoutez ce que l'apôtre Pierre avait à dire aux premiers chrétiens qui se posaient toutes ces questions. Si vous êtes insultés à cause de mon nom, à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Ah oui, ça aussi, c'est une manie qui guette pas que les chrétiens. Enfin, voilà, mais on en trouve aussi qui ont l'art de se mêler des affaires d'autrui. Non, non, il dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que vous souffriez parce que vous avez transgressé la loi, autrement dit. Surtout la deuxième table. Voler, mentir, tuer, et puis se mêler des affaires de Troïe. Il dit non. Ne souffrez pas pour ces raisons. Ce que vous souffrirez là, pour votre propre turpitude, votre propre conduite mauvaise, ce serait un contre-témoignage en réalité que de vivre ainsi. Mais il dit, il poursuit, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien. Ah, vous voyez, le nom était déjà passé comme un sobriquet. Parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. On sent, mes amis, à la lecture de ce passage, que certains chrétiens à qui s'adressait l'apôtre Pierre vivaient avec, comme un sentiment de honte le fait d'être appelé chrétien. Certains, aujourd'hui, seraient tentés, n'est-ce pas, eux aussi, de ne pas être remarqués, identifiés comme chrétiens. Quand est-ce que pour la dernière fois, un collègue, un ami, un voisin vous a dit « Hé, j'ai vu que tous les dimanches tu sortais là. Et ce n'était pas pour aller faire du vélo, hein, ni du tennis. Tu vas où ?» Est-ce que ça vous est arrivé? Je ne sais pas si vous répondez, mais je me souviens d'une première vidéo de Parcours Alpha à l'époque où la question était posée à quelqu'un et puis il dit « Non, non, je suis allé au magasin de bricolage, j'ai acheté des trucs pour ma tondeuse. Oh, non, non, non. » C'est dur hein, de dire qu'on va à l'église le dimanche. T'es sûr, 2 heures de ton temps, fais toute la matinée pour ça. Mais t'es fou. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir honte d'être perçu comme chrétien? Ce n'est pas évident et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, bien au contraire. Je ne dis pas ça pour vous prendre comme cible, bien au contraire. Mais je dis ceci dans le même esprit que l'apôtre Pierre pour dire « Soyez fiers que le bon nom de Jésus-Christ soit devenu ironiquement d'abord un sobriquet, mais il est vraiment devenu le nom qui dit notre identité. » Les sobriquets, ça c'est un grand classique. Dans l'histoire de l'Église, quand on est fâché, on désigne ses adversaires, on choisit un sobriquet bien frappé. Et les protestants ont eu leur lot de sobriquets. Les parpaillots. Vous ne connaissez pas ça? Il n'a pas dit la papaye. Hein? Je vous laisse un petit devoir, allez chercher l'origine du mot parpaillot. Hein? Dans le petit Robert ou dans un dictionnaire en ligne, et vous aurez des pages et des pages, ça va vous occuper un peu une partie de l'après-midi. Et les protestants donnaient aussi des sobriquets aux autres. Hein. Quand vous lisez Calvin au temps de la Réforme, parfois pour parler de nos frères catholiques, ils ne disaient plus les catholiques, hein. Ils disaient ces papistes. Hein, papistes, c'est-à-dire les dévots du pape. Voyez. Donc chacun avait fabriqué un sobriquet à l'autre. Mais je vais vous dire une chose qu'on va encore rappeler dimanche prochain. C'est que quand il y a la persécution, la persécution ne choisit pas si tu es catholique ou protestant, si tu es baptiste, charismatique ou non charismatique. Dans des pays comme le Nigeria, dans des pays où il y a la persécution, on ne te demande même pas quelle église tu fréquentes. Il suffit que tu te positionnes comme chrétien tout court et tu es discriminé et tu es persécuté. Parce que notre vraie identité, ce n'est ni parpaillot ni papiste. Notre vraie identité, c'est qu'il a plu à Dieu de nous donner le bon nom de Jésus-Christ. Ce nom moqué, la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom à qui nous ait été donné que ce nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus, lui, n'a pas honte d'être appelé notre frère. Moi, je peux avoir honte. Parce que ma vie n'est pas toujours belle. Parce que ma vie n'est pas toujours ajustée à sa pensée. Parce que je lutte encore avec le péché. Mais Jésus n'a pas honte de moi. Il n'a pas honte d'être appelé mon frère, ma sœur. Waouh ! Est-ce que nous mesurons ce matin ce que ça veut dire ? Alors mes amis, lorsque les uns et les autres viennent au milieu des chrétiens, au milieu d'une église, il faut qu'ils deviennent comme les observateurs du premier siècle. Quand nous entendons nous parler les uns aux autres, quand voyant la façon dont nous vivons les uns avec les autres, qu'ils puissent se dire, c'est qui ces gens-là? Ce sont des chrétiens. Non plus comme une moquerie, non plus comme une moquerie, mais comme la reconnaissance de cette identité qui pointe vers Jésus-Christ. Un Jésus-Christ aimant. Et un Jésus-Christ tellement aimant qu'il est mort à la croix afin que quiconque croit, tu peux mettre ton prénom, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Jésus qui inclut, un Jésus qui ne fait point d'acception de personne, un Jésus qui ne méprise pas, un Jésus qui nous dit allez vers les périphéries, sortez de l'entre-soi, allez vers les autres. Sortez, allez jusqu'aux extrémités de la terre, dire à tous les hommes, à toutes les femmes, que Dieu les aime. Qu'ils sont aimés de Dieu. Que je suis mort pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Voilà notre mandat, il y a 2000 ans déjà. Et c'est le point numéro 2. S'il te plaît, dessine-moi une église. Je te dessinerai l'église d'Antioche, comme une église où on voyait des gens, on disait c'est des chrétiens. Mais je te montrerai aussi que si tu lis l'écriture, quand on voyait les gens de l'église d'Antioche vivre, on disait c'est des missionnaires. Il nous est dit que ceux d'Antioche étaient allés jusqu'à la troisième ville de l'Empire romain, Antioche. Une ville monde, une ville cosmopolite. Et là, vous avez deux sortes de missionnaires. Il y avait des missionnaires qui voulaient rester dans leur zone de confort. C'est dur de sortir de l'entre-soi. C'est dur de sortir du pareil. C'est dur de sortir de cette zone de confort. Ceux-là, ils sont allés uniquement parler aux Juifs. Parce qu'ils venaient de là. Parce qu'ils savaient aussi les promesses de Dieu pour Abraham et ses descendants, certes. Mais comme Pierre, ils n'avaient pas encore compris que depuis l'Ancien Testament ou le Premier Testament, les promesses de Dieu sur Abraham ne se sont jamais arrêtées à Abraham seul, mais également à toute sa descendance qui sera nombreuse plus que les étoiles dans le ciel. Donc la bénédiction d'Abraham est une bénédiction universelle qui devient universelle. Et si elle devient universelle, il n'y a pas d'universel si on exclut les nations, les goyim. Il n'y a pas d'universel si on ne les voit pas comme champ possible d'évangélisation. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que certains juifs d'origine grecque, ou alors d'autres du groupe, sont venus de Chypre, une île pas trop loin d'Antioche, et même de Cyrène en Afrique du Nord. Ah, j'aime le livre des Actes. Chaque fois j'y croise des Africains, et je me dis, ah, je suis légitime. Bon, avant de croiser les Africains, j'ai croisé Jésus qui était juif. L'évangile vient d'eux d'abord. Mais j'aime voir Dieu élargir la famille et de dire que ce n'est pas un accident que nous soyons ensemble. Et ce sont ces personnes qui viennent d'une culture où ils étaient déjà en contact avec le monde païen. Ce sont eux que Dieu va utiliser pour témoigner aux gens qui vivent à Antioche englués dans une culture païenne. Le premier groupe n'était pas véritablement préparé à ce choc culturel. Mes amis, et en particulier les plus jeunes, mais les aînés aussi, vous avez traversé des grands changements en tant qu'aînés. Vous avez traversé des mutations en tant qu'aînés. Vous avez connu l'entrée de la guitare dans les églises et tout le tapage théologique que ça a fait. Vous avez connu la sortie de l'harmonium en pédale de l'église et vous avez survécu. Vous avez vécu l'entrée des batteries dans l'église et vous avez survécu. Vous avez vécu l'entrée de la basse dans l'église et vous avez survécu. Vous avez vu l'église se colorier et vous avez survécu. Dieu vous a préparé au changement. Dieu vous a accompagné au changement. Et vous voyez Internet aujourd'hui et vous êtes encore vivant. Il y a 2000, j'étais déjà chrétien, on me disait, attention, attention, c'est les 666. Vous avez vu la carte bancaire avec la puce, on vous a dit qu'il est là-dedans et vous êtes encore vivant. Vous avez donc une sagesse, les aînés. Vous avez donc une capacité de discerner les changements. Et par cette capacité, Dieu a voulu vous utiliser pour être des missionnaires dans ce temps où il y a changement sur changement. L'intelligence artificielle est là et l'Église se demande si elle survivra. Quelqu'un m'a dit que bientôt, on n'aura plus besoin de pasteurs peut-être pour prêcher. Mais nous survivrons même à ce changement. Les jeunes, vous êtes nés et immergés dans ce monde digital natif. Vous vivez, non pas tous ces changements, mais vous vivez dans un monde qui a changé profondément et qui est en mutation. Et pourtant, jeunes et moins jeunes, un même piège nous guette. C'est de rester chacun dans l'entre-soi. Les jeunes de leur côté, les moins jeunes de l'autre côté. De rester chacun dans une sorte de communauté de pères. Ceux avec qui on parle sont toujours les mêmes, le même style, la même culture, la même classe sociale. De ne pas nous élargir. Je voudrais que vous entendiez un cri de cœur ce matin. Nous sommes appelés à une interpénétration féconde de nos relations. Il faut, dans ce monde, des missionnaires qui refusent de rester dans l'entre-soi, qui refusent de parler qu'à un certain groupe. Aujourd'hui, on enferme facilement les gens dans les groupes. Mais vous êtes préparés, jeunes gens, et vous avez l'appui des générations précédentes et leurs témoignages pour oser la rencontre, mais ne pas se perdre dans la rencontre. Ne pas se perdre. Ils ne sont pas allés pour se perdre. Ils sont allés rencontrer les autres. Et Luc nous dit, ils parlèrent avec eux. Ça commence par ça. Avec qui je parle? Je parle toujours avec les mêmes. Je parle avec 1000 personnes sur Internet, mais avec qui je parle vraiment au quotidien? À qui je parle? À qui je dis bonjour à l'église? À qui je dis bonjour dans mon voisinage? À qui je dis bonjour au travail? Avec qui je parle? Et si je ne parle pas avec les autres, comment est-ce que je pourrais être une bonne nouvelle de Jésus pour eux? Nous devons apprendre à être des missionnaires simples et du quotidien. Pendant trop longtemps, les chrétiens, quand on leur disait qu'il y a la mission, ils voyaient toujours quelqu'un qui revenait d'Afrique ou de l'autre bout du monde pour raconter ses voyages. Ça a fini par les persuader que la mission, c'est quelque chose qui est ailleurs. Que la mission, c'est au loin. Les missionnaires qui vont au bout du monde ont leur place et leur légitimité. Mais ça ne peut pas nous empêcher de voir que la mission, c'est tous les jours. Et la mission, c'est partout. Et la mission commence en disant bonjour à celui que je n'ai pas salué depuis 2 ans alors que je viens de déménager. Là commence ma mission. La mission, c'est dans l'église. En osant se dire, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire un pas vers ce frère, vers cette sœur que je ne connais pas? La mission, c'est tous les deuxièmes dimanches de l'église, quand on met le repas communautaire ensemble, de se dire, pourquoi je vais toujours manger avec les mêmes? Pourquoi je ne pourrais pas aller manger avec les autres? La mission, c'est aussi ça. Nous apprenons à être déplacés par l'amour de Dieu qui nous presse et qui nous envoie vers les autres. Oh, je crois que ça rejoint des choses, hein. Je dis aussi amen. Et regardez, la mission, c'est aussi tisser des liens, des réseaux. Quand ceux de Jérusalem, c'est-à-dire une autre église, apprirent ce qui se passait à Antioche, ils ne sont pas restés indifférents. Mes amis, si je pouvais être à Valence pour pleurer avec ceux de Valence, je serais. Ils ne pouvons pas être indifférents. Ils ne pouvons pas vivre ce culte sans penser à eux. À ce qui se vit, et partout dans le monde où il y a souffrance. Quand ceux d'Antioche ont appris, quand ceux de Jérusalem ont appris qu'à Antioche, des jeunes chrétiens avaient accepté l'évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, mais comment on peut les encourager, comme on a encouragé les Samaritains? Et là, ce n'était plus Pierre qu'ils ont envoyé. Pourquoi? Parce que Pierre était un homme qui n'avait pas vécu dans une culture des nations. Il n'était pas le bon outil. Ils ont discerné qui? Ils ont discerné Barnabas. Pourquoi Barnabas? Parce que la Bible nous dit dans Acte 4, Barnabas qui s'appelait Joseph était originaire de Chypre. Et ils ont dit, Barnabas, toi tu viens de Chypre. Toi tu connais la culture où il y a les Juifs et les païens. Les Juifs et les Hélènes et les Grecs et ceux de l'autre culture. Tu es l'homme de la situation. Et Barnabas est allé et il a été l'homme de la situation. Pourquoi est-ce que c'est le Camerounais qui serait l'homme de la situation pour le Français d'abord? Pourquoi tu crois que c'est le Chinois qui va venir évangéliser ton voisin? Pourquoi tu crois que c'est celui qui n'habite pas dans ta montée qui est le mieux placé pour parler? Tu es l'homme de la situation. Parce que tu connais l'environnement. Parce que tu vis dans cet environnement. Tu es l'homme de la situation. Est-ce que tu crois que tu es l'homme de la situation? Tu es la femme de la situation? Amen. La mission, mes amis, c'est tous les jours, au travail, à la maison, dans ton environnement. Sommes-nous capables de rejoindre les autres en toute simplicité, comme Jésus? Vous savez, Jésus... Si je devais commencer à faire comme Jésus, je crois qu'à un moment donné, vous-même, vous allez me dire « Stop, Paul !» Et si vous le faites aussi, peut-être à un moment donné, moi aussi, je vais prendre peur, je vais vous dire « Stoppez un peu !» Jésus a bousculé les conventions de son temps. Jésus a bousculé. Jésus est sorti constamment des convenances. qui est dans cet homme qu'on appelle prophète et qui se laisse caresser les pieds de larmes et de cheveux d'une femme prostituée. Qui est donc cet homme qui prêche la justice et qui rentre dans la maison d'un collecteur d'impôts collabo? Qui est donc cet homme qui va dans les tombeaux et qui chasse les démons? Qui est donc cet homme qui guérit les maladies? Qui est donc cet homme de Jésus qui marche avec tout ce qu'on rejette? Qui est donc cet homme qui se laisse toucher par les lépreux? Qui est donc cet homme qui est à la piscine de Bethesda? De Bethesda, s'arrête sur le chemin de cet homme, 17 ans, à attendre. Qui est dans cet homme qu'une femme qui avait une perte chronique de sang pendant des années et des années a osé toucher juste le pan de sa robe. Qui est dans cet homme? Dites-le-moi, mes frères et sœurs. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Dessine-moi une église. C'est une église qui montre cet homme au monde. Cet homme qui ne discrimine pas. Cet homme qui n'a pas peur de toucher ceux qui sont à la marge. Cet homme qui entre dans toutes les maisons. Cet homme qui peut parler avec toutes les personnes sans perdre son identité. Je prie que nous soyons capables d'être cette église-là, encore et davantage. Qui est donc cet homme qui est capable de bénir si généreusement? Dernier point, cet homme c'est Jésus. Lorsque les disciples d'Antioche ont reçu Barnabas, ils ont vu le cœur de Barnabas. Barnabas a travaillé avec eux, tant et si bien qu'on retient plusieurs points de Barnabas. Il constate la grâce que Dieu accomplit. Quand je suis dans l'église, sur quoi est-ce que mes regards se portent en premier? Sur ce qu'il n'y a pas ou sur ce qu'il y a déjà? Barnabas, quand il les a rejoints, la Bible dit qu'il observa, il a constaté la grâce de Dieu à l'œuvre en eux. Certains viennent dans l'église, « Mind the gap !» Et la seule chose qu'il voit, c'est le gap. C'est l'écart. Il s'est dit, chrétien hypocrite, va. Il s'est dit, chrétien pharisien, va. Il s'est dit, celui-là, est-ce que celui-là est vraiment pasteur? Est-ce que c'est... Jugement sur jugement. Je prie qu'il y ait plus de Barnabas dans l'église que de gens qui ont le réflexe juste de dire, « Mind the gap !» Oui, il y a un écart encore entre nous et Jésus. Entre nous et le royaume parfait. Mais il n'y a pas qu'un écart. Il y a aussi une réalité belle. Il y a aussi une fraternité. Il y a aussi un cœur. Il y a aussi une bénédiction. Il y a aussi un amour qui est là. Et je peux vous dire que ce matin, autour de José, sa famille guyanaise, tous l'ont vu. Et ce n'est pas juste au temps de la mort qu'on peut voir ce qu'on s'est aimé. Aimons-nous vivants et bien vivants. Aimons-nous maintenant. Disons-nous des mots d'amour maintenant. Dis-nous l'essentiel maintenant. J'ai vu cet homme pleurer tant de fois. Son fils vient de nous témoigner quelque chose qui était bouleversant. 13 ans de rupture de relation. Mais 3 semaines pour essayer de tout reconstruire. Le temps de soins palliatifs. Et il dit, je suis apaisé de cette réconciliation que j'ai pu avoir avec mon père avant qu'il ferme ses yeux. Ce n'est pas facile. C'est un autre sujet, une autre prédication. Mais ne restez pas, tant que cela dépend de vous, sans essayer. Sans rechercher. Ne dites pas juste, regarde l'écart, regarde l'écart. La Bible nous dit que Barnabas voyait la grâce de Dieu à l'œuvre. Barnabas était rempli de joie. J'ai déjà prêché ça il y a des mois et des mois. Une église, sans nier la souffrance, sans nier la tristesse, est quand même un lieu où on doit rentrer en étant content, en étant rempli de joie, ou en tout cas, du moins apaisé. Et j'espère que quand vous repartirez ce matin, comme les autres dimanches, vous repartirez avec de la joie, ou en tout cas avec un cœur un peu apaisé. Le sentiment que Dieu a rejoint votre actualité, que Dieu vous a parlé, que Dieu vous a entendu, que Dieu vous a vu. Barnabas avait été appelé le fils de l'encouragement. Il encourageait. Encourager, c'est donner de la force au cœur. Courage, d'encourager, il y a le mot cœur. Encourager quelqu'un, c'est fortifier son cœur. Le cœur, c'est le centre de la vie, de la pensée aussi. Que quelqu'un ce matin, en partant, dise « Je veux être quelqu'un qui parle au cœur de l'autre » pour lui donner de la force au cœur. C'est ça, être encourageant. C'est donner force à celui qui est faible. Force et confiance à celui qui doute. Force et confiance à celui que la vie a fauché. Force et confiance à celui qui lutte. Barnabas savait faire cela. Montre-moi une église c'est là où va Barnabas. C'est là où il y a des Barnabas. Barnabas savait également qu'il n'avait pas toutes les compétences, tous les dons. Quand il a vu l'église grandir, il s'est dit, je ne suis plus tout seul l'homme de la situation. Il ne faut pas que je reste comme ça. Et il est allé chercher un autre collaborateur. Il a construit un réseau. Il est allé à Tarse, des kilomètres et des kilomètres. Et il est allé chercher un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Il a dit, viens avec moi. Viens avec moi. Tu as les dons que je n'ai pas. Dessine-moi une église. C'est le lieu où il y a des ministères en collaboration. C'est le lieu de nos complémentarités. Je n'ai pas toutes les qualités. Je n'ai pas tous les dons. Toi non plus. Mais nous pouvons être les Barnabas les uns des autres. Et nous n'avons pas tous les dons dans notre église locale. Et nous pouvons aller collaborer avec une autre église pour dire, vous avez ce don-là, venez nous bénir. Et nous, on a ceci, on va vous bénir. Mes amis, lorsqu'ils ont vu un tel amour, comment pouvaient-ils rester insensibles quand ils ont appris que l'église de Jérusalem et de la région de la Judée était touchée par une grande famine? Ils avaient reçu de leur part, non pas de l'argent, mais ils avaient reçu un Barnabas. Alors vous comprenez qu'eux aussi, à leur tour, ils se sont sentis concernés. Une église se sent concernée par les autres églises. Une église se sent concernée par les événements qui touchent le monde. Une famine a touché le monde de leur époque. Ils se sont sentis concernés. Et parce qu'ils étaient concernés, ils ont réfléchi chacun. Et ils ont librement, dit le texte, décidé de donner pour aider des frères qu'ils ne connaissaient pas, pour aider des gens qu'ils ne connaissaient pas. Mes amis, ça commence aussi dans l'église. Vous savez, on donne au Téléthon et c'est bien. On donne à la Croix-Rouge et c'est bien. On donne pour tellement de choses et c'est très très bien. Mais vous savez, il y a une boîte là aussi qui parle de main tendue aux étudiants. Donnons là aussi, ce sont des étudiants qui reçoivent des colis alimentaires tous les 15 jours, mais que nous ne connaissons pas, mais nous les bénissons. Alissa nous a parlé de la dîme. Je terminerai par cette anecdote pour vous montrer combien le cœur de l'homme est difficile à comprendre. C'est un gars qui est fauché et qui prie, Seigneur, 100 euros régleraient mon problème, seulement 100 euros, et je te promets, je te donnerai ma dîme. Et un jour, il tombe comme ça en marchant sur une enveloppe bizarre, froissée. Il ouvre l'enveloppe, il y a de l'argent. Il compte 10, 20, 40. Oh Seigneur, tu es bon. 50, oh Seigneur, tu es même très bon. 60, Seigneur, tu es merveilleux. 90, Seigneur, il me manque des mots. Et puis il dit, ah, 90. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es sage. Tu as déjà appris la dîme. Tu as déjà pris la dîme. Oh, ne soyons pas comme ça. Non, ne soyons pas comme ça. Soyons généreux. Soyons généreux. Le Seigneur lui a donné 90, il aurait pu enlever 9, il lui donne. Alors que le Seigneur nous bénisse, soyons généreux et solidaires. C'est ce que nous vivons, c'est ce que j'ai un peu goûté aussi à la Bessette, c'est ce qu'on goûte dans d'autres colos aussi, je pense, les témoignages. Continuez d'être cette église qui pointe vers le Christ, qui encourage chacun à être missionnaire là où il est, et qui est généreuse et solidaire. Et qui se sent concerné par la ville et par le monde. Amen. On va prier ensemble. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu as voulu encore nous enseigner à partir du témoignage des chrétiens d'Antioche, ceux-là qu'on a moqués, méprisés, et pourtant, ironiquement, c'était leur identité vraiment. Nous sommes chrétiens. Si du moins, Seigneur, nous t'avons confessé comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Jésus, face à la description que l'Évangile fait de toi, comment ne pas saisir la main d'amour que tu nous tends? Comment ne pas accepter cette inclusion, cette intégration à ton plan et à ta famille? Alors, Seigneur, ce matin, je prie pour que quelqu'un, en son cœur, fasse cette démarche d'accepter d'être aimé de toi, d'accepter de choisir Jésus et de repartir en étant chrétien, non pas au sens culturel ou sociologique, mais en ayant vécu cette réalité de te rencontrer dans son cœur. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes en mission, en marche, en mouvement, en allant vers les autres. Et ça commence ici et ça se poursuit dans la semaine. Et puis Seigneur, délivre-nous du poids de l'argent et de nos biens. Libère-nous des liens de la peur et de l'inquiétude des lendemains, afin que nous vivions une vie simple et généreuse et solidaire, comme toi Jésus, tu as vécu, simplement pour bénir beaucoup d'autres. Amen.